Amen. Ce matin, j'aimerais avec vous partager quelques textes de la parole de Dieu et surtout une pensée de fond qui est celle où on a besoin que le Seigneur intervienne pour ceux qui nous bloquent. Il y a des fois des choses qui nous bloquent. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous quelques textes de la parole de Dieu qui nous montrent qu'à un certain moment, Dieu va donner des ordres bien précis parce que malgré tout, les combats, malgré tout, les chemins, malgré tout, les changements qu'il avait apportés au sein du peuple d'Israël, il y avait quelque chose qui devait être fait. Et moi, je crois que nous, on a encore des choses que Dieu veut faire dans notre vie. Qui le croit? Et qui est prêt à le laisser faire? Ah, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, je voudrais juste vous rassurer, ce texte au niveau de la circoncision ne s'applique plus. Néanmoins, le fond, au niveau spirituel, la pensée de Dieu, elle est là et on doit la considérer, la recevoir telle qu'elle. Amen. On va lire ensemble en Josué chapitre 5, versets 2 à 9. Il dit la parole de Dieu, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites, près de la colline des Haralotes. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition du contingent des hommes de guerre sortis d'Égypte qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père et nous donner le pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à la guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi, à ton appel, ce lieu de nom de Gilgal, qui veut dire roulement jusqu'à aujourd'hui. Amen. » Dans ce texte qui peut nous sembler juste quelque chose qui est une pratique religieuse, quelque chose qui faisait partie simplement d'un engagement, il y a quelque chose de bien plus profond que ça. Et même si pour le peuple d'Israël, il était question pour lui de ne pas aller plus loin tant que cet acte n'était pas accompli, je crois qu'il est important pour nous de comprendre qu'il y a des fois des situations, des circonstances qui nous empêchent d'aller plus loin dans notre vie personnelle. On aimerait, on voit la bénédiction, et on a le sentiment qu'on ne peut pas y aller. Parce que Dieu nous dit, il y a quelque chose à faire dans ta vie. Tu vois ce que je t'ai promis, tu vois que toutes mes promesses sont vérité, ce que je dis, je fais, ce que je décide, je l'accomplis. Mais maintenant, il y a quelque chose qui te concerne dans ta vie et tu dois accepter de passer par là. Tu as besoin finalement qu'il y ait un acte qui s'accomplit dans ta vie, presque on pourrait dire une blessure qui est nécessaire. Dans ce texte, on voit qu'à un certain moment, avant de rentrer à Canaan, Dieu parle à Josué et il lui ordonne, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Et il lui ordonne de circoncire tous les hommes du peuple, car rien n'avait été fait en chemin et donc tout le peuple était sous l'opprobre. Ça veut dire objet de reproche. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu peut encore nous faire des reproches? Et si c'était ça qui faisait que le Seigneur n'est pas encore revenu? Comment Dieu pourrait nous accueillir dans le ciel? On dit tous, Seigneur, au son de la trompette, les morts se lèveront les premiers, c'est vrai. Les morts en Christ ressusciteront, amen. Et après, l'église de Jésus-Christ sera prise dans le ciel, amen. C'est comme ça, je vous rassure, il n'y a pas de piège. Hein. Mais est-ce que l'église de Jésus-Christ, elle est prête? Est-ce qu'il y a encore des choses que Dieu peut nous reprocher? Alors, comprenez bien, il n'est pas question pour nous de commencer à sortir les fouets, à se frapper sur le dos, à se martifouetter. Ce n'est pas ça. Mais c'est question de dire, Seigneur, moi je désire aller plus loin, et aller plus loin, à un moment, ça va m'amener très loin. Mais je vais être prêt. Je ne veux pas négliger des choses dont j'ai besoin, peut-être encore aujourd'hui, Seigneur, de venir vers toi. Précisément, Dieu leur reproche de ne pas avoir été circoncis, selon le commandement que Dieu avait établi dans l'alliance faite avec Abraham. C'était un engagement. C'était la manière où Dieu avait fait alliance avec Abraham, et en même temps, puisqu'Abraham avait circoncis aussi, celui qui n'était pas le fils de la promesse, le fils de Hagar, Ismaël. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham et l'a maintenue aussi pour Ismaël. Il lui a dit, je le bénirai. Parce que quand Dieu promet, il promet. Et il tient toujours ses promesses. Amen. Tant qu'il n'avait pas obéi à cette ordonnance divine, il ne pouvait pas aller plus loin. En lisant ce texte, je me suis rendu compte que très souvent, il y a des choses que nous n'avons pas réglées et qui nous empêchent d'avancer. Parfois, c'est des reproches que nous faisons aux autres, mais peut-être à nous-mêmes. Parce que tous les problèmes n'est pas forcément avec les autres. Des fois, on a des problèmes avec nous-mêmes. Je dirais que parfois, on en a plus avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ça vous parle? La culpabilité, par exemple. La honte. La désobéissance. La rébellion. Notre caractère. Ah, ça, c'est le top. Hein? On est tous dotés de ce piège. Autant notre caractère peut être doux, très doux, trop doux, autant notre caractère, il peut être comparé à un animal à quatre pattes. Question, existe-t-il une ou plusieurs raisons qui pouvaient vous empêcher d'avancer? Si on fait un examen avec le Seigneur ce matin, est-ce qu'il y a des choses, Seigneur, qui m'empêchent d'avancer? On peut avoir plein de convictions, hein, et elles peuvent être toutes erronées. Hein. Oui, mais Seigneur, je fais preuve quand même de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas, je suis désolé. Parce que si ça suffisait, alors je peux vous dire qu'il y en a qui nous ont dépassés en bonne volonté. Hein. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par Christ. Et lorsque Christ nous invite à la croix, il nous invite à mourir à nous-mêmes. Alors vous savez, j'ai jamais vu autant de résurrection. C'est incroyable. Parce que quelqu'un se dit parfois, je veux mourir à moi-même, mais vite se remet debout et repart comme avant. Alors, je pense pas que ce soit le fruit d'une action spirituelle. C'est juste que la chair, elle a du mal à mourir. Alors, en lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'il y a un rapprochement quand même à faire en le psaume 32, les versets 1 au verset 5, qui dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consommaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » On le lit rapidement, ce texte. Mais c'est un processus. Ça demande du temps. Ça demande une analyse personnelle, puisque finalement on se rend compte que Dieu fait des choses autour de nous et on voit que ceux qui ont été pardonnés, leurs transgressions ont été enlevées. Et j'imagine tous ces hommes, ces femmes qui ont vu ces gens considérés comme des pécheurs, être heureux, rentrer dans le temple, être relevés, être guéris, être pardonnés. Et dit pourquoi lui oui et moi pas, je viens au temple tous les samedis ou à l'église tous les dimanches. Ou un dimanche sur deux, allez, on va pas exagérer quand même, hein. Soyons sérieux. Je vais pas choper la réunionite. Et après, on se dit, Seigneur, pourquoi lui oui, moi pas? On a vu parfois des personnes venir pour la première fois à l'église être guéries. Non? Et des personnes qui sont là, mais je crois que Dieu connaît le chemin par lequel on doit passer. C'est pas parce que Dieu s'amuse à jouer, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Non, c'est pas comme ça. Dieu connaît de nous tout. Et il est question pour nous de dire, Seigneur, donne-moi d'être heureux, donne-moi d'être heureuse, mais ça passe par ce moment où finalement on se rend compte qu'il y a un poids qui nous écrase et qui pèse et qui devient trop lourd et que la seule solution, c'est de confesser à Dieu. Pas aux hommes, parce que je peux rien pour vous, hein, que ce soit clair. Mais le Seigneur peut toutes choses. Alors parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous accompagne et qui nous encourage. Allez, vas-y, libère ton cœur devant Dieu. Mais rien vous empêche de le faire tout seul, chez vous, à la maison, à genoux, dans votre chambre. Fermez bien la porte et confessez au Seigneur ce qui ne va pas. Confessez à Dieu ce qui vous pèse. Confessez à Dieu ce qui vous écrase. Et il dit, je gémissais toute la journée. Waouh, c'est terrible ça. Déjà, une personne qui gémit 5 minutes, c'est... Hein ? Je sais pas vous, mais quand je vais au supermarché, j'entends des enfants qui gémissent parce qu'on leur donne pas des bonbons. Moi, j'ai juste envie de partir vite. Alors, vous imaginez quelqu'un qui gémit toute la journée ? Comment il gémit, quelqu'un qui gémit ? Qui pourrait nous donner un exemple de gémissement ? Ah, il y a des espères, hein ? On sent qu'il y a de l'exercice, hein ? Et des fois, on gémit devant le Seigneur. Seigneur, je comprends pas pourquoi ça va pas mieux dans ma vie. Les autres, ils vont bien. Et moi, ça va pas. Mais c'est pas par là que tu dois commencer. C'est par vider ton cœur. Regarde pas auprès des autres. Regarde au fond de toi-même. Parfois, on voudrait aller bien, mais on vit sous la culpabilité. Ce n'est même pas une question forcément de péché, mais de culpabilité, le fait d'accepter que Dieu nous ait pardonné. Quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, est-ce que le fait de vous sentir pardonné, est-ce que vous n'avez pas été attaqué par rapport à ça ? Il n'y a pas eu quelque chose qui est venu vous dire, mais tu crois vraiment que tu es pardonné ? Attends, c'est trop facile. Et pourquoi faire difficile quand c'est simple ? Non ? Pourquoi vouloir continuer à porter un fardeau alors que le Seigneur nous a dit qu'il a pris nos fardeaux et qu'il les a jetés au fond de la mer, où personne ne pourra les reprendre, sauf toi ? Et là, tu peux laisser à l'ennemi le plaisir de continuer à te torturer par telle pensée. Mais la parole de Dieu nous dit que quand nous allons à Christ et que nous confessons nos péchés, nous sommes pardonnés. C'est instantané. Amen. L'homme à la croix, c'est un exemple magnifique, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il va avoir des heures pour dialoguer avec Jésus sur la doctrine du salut, le baptême, l'imposition des mains, l'onction d'huile ? Non. Dis Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et il dira à l'autre, tu n'as pas honte. Nous, si on est là, c'est à cause de nos péchés, mais lui, il n'a rien fait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Attends, on va prendre rendez-vous, on va faire une formation en accéléré, en 10 points. Ah, maintenant, c'est la mode. Si vous regardez souvent sur Internet, vous avez tout avec des nombres. Les 7 trucs, les 5 ceci, les 4 trop loin, les 3... Il y a toujours un numéro devant, comme si on pouvait limiter Dieu à des numéros. Excusez-moi, mais vous connaissez, vous, la machine à calculer du Seigneur ? 5 pains et 2 poissons, ça nourrit ? Essayez avec votre calculette et vous verrez si ça marche. Donc, on ne peut pas calculer de la même manière, non ? Mais du moment que je viens au Seigneur et que je confesse mes péchés, il dit la parole de Dieu qu'après avoir circoncis tout le peuple resta ferme. Il y a eu une coupure, il y a une coupure nette. Tous les hommes ne pouvaient plus aller à la guerre. Ils étaient là et pendant 3 jours, ils sont tous bloqués. 3 jours. Moi, je crois que le Seigneur, en 3 jours, est capable de transformer une vie, non ? Qu'est-ce qu'il dira à ses disciples ? Détruisez le temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il ne parle pas de chiffres donnés comme ça, hein ? Parce que si vous allez auprès d'une entreprise de construction et vous lui dites, tu fais ça en 3 jours, il vous regarde, il vous dit, en 3 jours, je vais juste tracer avec le feutre ou la bombe de peinture au sol, hein, ça j'en fais mon affaire, en 3 jours ça devrait pouvoir se faire, et pour le reste. Mais combien de fois on a vu le Seigneur changer une vie à l'instant ? 3 jours entre les mains de Dieu, je peux vous dire, c'est un changement radical. Après, il faut supporter ce changement pendant 3 jours parce que Dieu, il est patient et les changements, il les fait graduellement pour nous aider. Hein. Mais est-ce que Dieu est capable en 3 jours de changer une vie complètement ? Oui, oui, je le crois, oui. Des gens qui n'ont pas eu plus de temps que ça, mais Dieu, à l'instant, a fait quelque chose d'incroyable, de merveilleux. La métamorphose a été directe. Direct, parce que Dieu est puissant. Et quand il dit quelque chose, il est capable de le faire. Je me rappelle d'un homme qui avait un jour été invité parce qu'il y avait un évangéliste qui passait, et il avait entendu l'évangile et il avait entendu ce message et il a dit à sa femme, viens, il y a quelqu'un qui parle de Dieu, et il ramène ses enfants. Sa femme, ses enfants, ils se sont tous convertis, lui non. Et pendant toute sa vie, il aura fait la misère. Terrible. Et un jour, il était là, dans l'incapacité physique de pouvoir se raser. C'est son beau-fils, à qui il lui en avait fait des vertes et des pas mûres, qui était là en train de le raser. Et le beau-père, il dit, après tout ce que je t'ai fait, t'es encore là pour me raser. T'es vraiment nul. Dire ça à quelqu'un qui a un rasoir dans les mains. Et lui, il lui a répondu, peut-être que tu penses que je suis nul. Et c'est pas grave. Moi, je le fais parce que Christ m'aime et me dit que je dois t'aimer. En lui disant ça, ce qu'il avait entendu dans sa jeunesse par la prédication de cet évangéliste est remonté dans son cœur, dans son âme, il s'est mis à pleurer. Il a confessé ses péchés. Il a appelé sa famille, il a demandé pardon à ses enfants, à son épouse, il a demandé pardon à tout le monde. Et quelques jours plus tard, il est parti dans la gloire. Jetez votre pain sur les eaux et un jour, vous le trouverez. Je voudrais vous encourager à témoigner autour de vous. Parce qu'il y a un moment, vous savez, la bouteille, elle revient. Hein. Amen. Si vous avez mis un petit message, vous la balancez, le message arrive. J'avais un frère en Alsace, il mettait des textes bibliques dans les bouteilles, il les balançait dans le Rhin. Et un jour, il reçoit une réponse du fin fond de l'Allemagne, quelqu'un qui avait reçu ce message et qui le remerciait parce que le message était arrivé au bon moment et Dieu avait touché son cœur. Je crois que Dieu sait qu'au fond faire, non ? Alors avec ça, n'allez pas balancer toutes les bouteilles à la mer, hein. Parce que vous risquez d'avoir un problème de pollution. Amen. Je tiens aussi à considérer que pendant ces 3 jours, vous imaginez bien que l'armée était dans une situation d'impossibilité de riposter s'ils étaient attaqués. Finalement, pendant 3 jours, ils sont, on pourrait dire, paralysés et peut-être même exposés aux Amoréens, aux Cananéens qui étaient là, qui auraient pu profiter de la situation pour les attaquer et avoir raison du peuple hébreu. Et pourtant, Josué chapitre 5, verset 1. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Lorsque tous les rois des Amoréens qui sont au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec le cours du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils aient passé, le cœur leur manqua et ils perdirent le souffle devant les Israélites. Waouh ! Dieu avait prévu les choses, non ? Et nous, on pourrait se dire, Seigneur, mais si je fais ça, je vais finalement me mettre à découvert, je vais m'exposer à des situations. Seigneur, si maintenant j'arrête d'être comme je suis, Seigneur, je ne vais pas pouvoir faire face à ceux qui voudraient m'attaquer. Mais regarde ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable de prévoir les choses au point que finalement les ennemis n'ont pas eu cœur parce qu'ils ont eu peur, parce que Dieu était là à l'action. Et je crois que quand on laisse le Saint-Esprit agir dans notre vie, pas seulement il vient circoncire notre cœur, mais le Seigneur aussi celui qui s'oppose à ceux qui nous attaquent parce que c'est lui qui a fait cette promesse. N'est-ce pas ? Restez en silence et l'Éternel combat pour vous. Amen. Il est question pour nous de dire, Seigneur, vas-y, agis. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Vous connaissez ce texte ? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On pourrait dire que l'apôtre Paul avait besoin d'un entretien psychologique avec une petite camisole blanche. Hein, on pourrait dire que c'est de la folie ce qu'il dit. Souvent, lorsque nous nous croyons faibles et exposés aux attaques de l'ennemi, finalement, nous réalisons que Dieu est celui qui nous garde et qui nous fortifie. C'est là quand on est le plus affaibli. C'est là qu'on finalement nous n'avons plus de réaction humaine charnelle, mais on dit Seigneur, moi je ne peux plus, je ne sais plus comment faire. Seigneur, je te fais confiance, je te laisse agir. Seigneur, je te laisse œuvrer dans ma vie, dans mon cœur. C'est bien souvent dans les moments où nous croyons que rien ne se passe, que rien ne bouge, que rien n'avance, que l'Esprit de Dieu est en action. C'est beau, hein ? C'est dans ces moments où nous coupons ce qui n'a plus à rester attaché à notre vie que Dieu est à l'œuvre en nous, alors que nous avons le sentiment que rien se passe. On a l'impression de rien voir et rien entendre de sa part. On est là comme dans une no man's land. Je ne vois rien dans ma vie. Je demande à Dieu, il ne me répond pas. Mais si tu fouilles un peu dans les profondeurs de ce que Dieu t'a déjà dit, où il t'a dit qu'il y a des choses dans ta vie, il faut couper net, il faut accepter de mettre fin à ça si tu veux aller plus loin. Et lorsque tu obéiras à ça, il te donnera la suite. Ça arrive parfois que les enfants, ils veulent savoir tout ce qu'on va faire, comment on va faire. Et si vous leur dites d'abord on commence, tu sais, tu vas te lever, tu vas faire ton lit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et après. Mais on ne peut pas faire ça après et ce que j'aime faire maintenant. Et nous, on est un peu comme ça, non ? Dieu nous dit, vas-y, fais ça, ça, ça et ça, et après. Et nous, on aime bien ce que Dieu met après, on le veut tout de suite. Ce que Dieu dit avant, nous, on le met après, mais je ne sais pas quand. Parce que si vous avez les mêmes à la maison, parfois, ça traîne des semaines. Bon, je ne vais pas plus loin pour ne pas ouvrir des conflits familiales. Dieu a arrêté Josué et le peuple avant de rentrer à Canaan, car le peuple n'était pas circoncis selon l'ordre et l'alliance faite à Abraham. Et je vous rappelle que Josué vient de succéder à Moïse. Alors, en lisant ce texte, je me dis, mais pour quelle raison Moïse n'avait pas circoncis le peuple ? Vous êtes d'accord avec moi quand même que Moïse... ça a été un homme remarquable, n'est-ce pas ? Pendant 40 ans, il a été l'homme de Dieu, a été cet homme que Dieu a conduit, qui a amené le peuple à sortir d'Égypte, qui a vu ce peuple grandir. Dieu a pourvu à tous leurs besoins dans le désert. Moïse voyait face à face Dieu, parlait cœur à cœur avec Dieu et appelait l'ami de Dieu. Et là, on se dit, mais pourquoi Moïse a fait une telle erreur ? Tel gaffe, pourquoi cet oubli ? Pourtant, il était lui-même concerné, parce que je vous rappelle que sa femme, Séphora, n'avait pas voulu circoncire leur fils. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça pour prouver que personne n'échappe à la règle. Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vit à sa rencontre et voulut le faire. Waouh, l'ami. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha le pied de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». L'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit « Époux de sang à cause de la circoncision ». Moïse n'avait pas fait parce que sa femme n'était pas d'accord. Et il y a un moment où Dieu lui dit « Maintenant, stop. Même si tu t'appelles Moïse, la règle est aussi pour toi. Quel est votre prénom ? Dites-moi votre prénom. Ça vaut aussi pour toi, Bernard. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelle qu'il soit la loi que Dieu nous donne, elle nous concerne. On ne peut pas dire que parce qu'on est pasteur ou parce que ceci ou parce que cela, que nous on est exonéré. Pas du tout. La parole de Dieu nous invite finalement à être d'exemple et on voit que Dieu intervient. Et qu'est-ce qu'il en suit ? Parce qu'il y a quelque chose qui en suit. Pour prouver ce que je viens de vous dire, finalement, il y a quelque chose qui doit en suivre. Si on prend dans l'histoire de Josué, après la circoncision du peuple, Josué va se trouver à monter sur la colline et il voit au fond une ville imprenable, Jéricho. Et là, l'ange de l'Éternel vient parler à Josué. Et l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, il lui dit, voilà comment tu vas remporter la victoire. Voilà ce que tu dois faire. Est-ce que vous croyez qu'il aurait pu aller se battre s'il n'avait pas fait ce qu'il fallait avant ? Est-ce qu'il aurait remporté la victoire sur Jéricho ? Certainement pas. Et comment pouvons-nous imaginer un instant qu'en restant dans notre désobéissance ou peut-être dans notre lassitude des choses, Seigneur, après, vous savez, on renvoie, que Dieu... obligatoirement, ben, tu veux la victoire, tiens la victoire. Tu veux ceci, tiens ceci. Dieu ne veut pas faire de nous des enfants... comment ? Capricieux, c'est bien le mot. Merci ma sœur. Je suis content, j'ai plein de secrétaires et qui m'aident dans les mots. La volonté de Dieu, ce n'est pas de faire de nous des enfants qui boudent parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais ils veulent faire de nous des hommes et des femmes mûrs spirituellement, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont exemplaires dans la parole de Dieu, mais aussi dans la manière de le vivre, parce qu'on peut dire les choses. Mais est-ce qu'on les vit ? C'est tellement facile de dire à quelqu'un, tu sais, tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Mais après, la bonne question, est-ce que toi, tu le fais ? Ah, mais moi, je ne suis pas concerné. Hein ? C'est ton problème. Hein ? Tu fais ce que tu veux, après, moi, je te dis ce que tu as à faire. Hein ? Mais mon frère, ma sœur, avant de donner des conseils, assure-toi que tu les as bien mis en œuvre dans ta vie. Alors, Moïse se retrouve dans cette situation et regardez, toujours Exode 4, versets 27 à 31, donc c'est la suite. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il opéra les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites et qu'il avait vu leur misère. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il se serait passé si Moïse, finalement, n'avait pas obéi à Dieu ? Si sa femme n'était pas intervenue là, dans les situations, vous savez, Dieu est en train de secouer Moïse, mais en effet, il donne à celle qui faisait le blocage la manière de changer de situation. Moi, je me rappelle d'un couple, et lui, il voulait servir le Seigneur. Elle ne voulait pas entendre. Et ce frère, il vient me voir, il dit, Emmanuel, j'ai vraiment à cœur l'œuvre de Dieu, je voudrais servir le Seigneur. Et moi, j'ai posé la question, et ton épouse ? Ah, pas du tout. J'ai dit, ben alors, on ne va pas bouger tant que Dieu n'a pas réglé ce problème. Et il dit, qu'est-ce que je fais alors ? Moi, ça brûle dans mon cœur. J'ai dit, prie. Prie. Dieu est capable de faire de grandes choses. Prie. Demande au Seigneur. Et vous savez quoi ? Il a prié. Et vous savez ce qu'il s'est passé ? Il a fait une récidive de cancer. récidive. Il avait été déjà soigné pour un cancer, et là, il faisait une récidive. Waouh ! Et il me dit, Emmanuel, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai dit, prie. Prie. Et il prie. Sa femme, elle est inquiète. On peut imaginer. Et un jour, dans sa prière, il dit, Seigneur, si tu sauves mon mari, pas seulement il va te servir, je le servirai. Et je te servirai avec lui. Vous savez quoi ? Seigneur a relevé le mari. Amen. Alors, la technique de Dieu, elle est étrange parce que on aurait pu dire, c'est plutôt elle qui aurait dû... Mais peut-être qu'elle avait besoin finalement de prendre considération que ce que Dieu lui avait accordé à Marie, certes, mais elle aussi, elle appartenait à Christ. Et qu'elle avait besoin, elle, finalement, de couper avec certaines choses. Elle ne voulait pas quitter sa maison, elle ne voulait pas ceci, elle ne voulait pas cela. Et finalement, elle a fait une coupure nette. Elle dit, ce qui est plus important maintenant, c'est servir le Seigneur. Je bénis Dieu parce que les deux servent le Seigneur. Amen. Mais parfois, il faut passer par des situations qui sont tremblements de terre. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est cette histoire ? À cause de ces traumatismes, à cause de ces blessures non réglées dans la vie de Moïse, toute une génération fut touchée et ne fut pas circoncise. Moïse n'a circoncis personne. Ils ont fait une première fois, mais dans le désert, on a oublié. Ils étaient rentrés dans la routine, ils étaient rentrés dans la marche, il fallait avancer, il fallait avancer, il fallait avancer. Et il y a un moment où Dieu nous dit, ben là, t'es arrivé au taquet. Maintenant, il faut régler. Seigneur, mais ça fait déjà 15 ans que je suis chrétien, je pensais que c'était oublié, enterré. J'ai appris quelque chose, c'est qu'il y a un moment où Dieu passe la charrue. Vous savez ce que c'est la charrue ? C'est pas la charrette, hein. La charrette, c'est nous qui la traînons. La charrue. C'est quoi la charrue ? C'est une pointe légèrement pliée qui rentre dans la terre, qui va en profondeur et qui retourne la terre. Il fait remonter ce qui est au fond. Et ce qui est au fond, vous savez, il y a des choses qu'on a cachées au fond, hein, et qu'on n'a pas envie de montrer à qui que ce soit. Mais Dieu les fait remonter parce que tant que tu ne les as pas réglées, elles sont toujours là. Et le jour où tu seras devant le Seigneur, dis-moi, tu feras comment à régler après ? Ah Seigneur, j'avais oublié. Dieu n'oublie pas. Pas tant que tu n'as pas réglé. Une fois que tu as réglé, c'est oublié. Mais tant que tu n'as pas réglé ce qui est resté caché dans les placards, ce qui est resté caché sur terre, Dieu le fait ressortir à un moment ou à un autre parce que si tu veux aller plus loin, il faut régler. Et Moïse avait besoin de régler, le peuple avait besoin de régler, nous avons besoin de régler. Hébreux 12, verset 13, dira ceci, « Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. » Et en lisant ce texte, je me dis, « Seigneur, si moi, à cause de mes mauvais choix, je déteignais sur ma famille, sur mes enfants ou les personnes dont tu m'as donné la responsabilité, comment je vais faire quand je vais me présenter devant Dieu ? Comment je vais pouvoir justifier de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ? Déjà pour ma famille, mais pour vous tous, vous pensez que le Seigneur va me dire, Emmanuel, oh c'est pas mal, le dimanche 18, il y avait quand même du monde à l'église, hein, les chants n'étaient pas trop mal. Ça, ils s'en manquent. Ça, ils s'en manquent. Est-ce que le Seigneur va me dire, t'aurais dû faire ça dans ta vie, tu ne l'as pas fait, et regarde ce que ça produit. Regarde comment les choses... Frères et sœurs, si ça vaut pour moi, mais ça vaut aussi pour vous. Hein. Je vous rappelle que Myriam, tant qu'elle n'avait pas réglé son problème, le peuple n'a pas pu avancer. Hein. Ils ont dû attendre que Myriam, une personne sur des milliers, des milliers, des milliers et des milliers, attende pour que le Seigneur la purifie de sa lèpre à cause de son comportement. Hébreux 12, verset 11. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Je voudrais vous dire ça, si le Seigneur aujourd'hui met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, ça fait mal. Hein. Non ? On n'aime pas. Mais tant que ce n'est pas soigné, tant que c'est pas, ça peut s'affecter, ça peut devenir pire. Et le Seigneur ne voudrait pas que finalement cela vous entraîne à une mort spirituelle parce que vous n'avez pas réglé le problème tant qu'il le fallait, tant qu'on n'a pas réglé, parce que je me mets aussi dans le lot. Hein. Il est question pour nous de dire, Seigneur, si aujourd'hui tu me corriges, Seigneur, je te remercie, parce que ça c'est ce qu'un père fait envers ses enfants, n'est-ce pas ? Et je sais que si aujourd'hui je prends ça comme un sujet de tristesse, Seigneur, demain sera pour moi un sujet de joie. Et le fruit sera un fruit de justice que tu as formé dans mon cœur, Seigneur, tu m'as justifié. Amen. Je termine dernier verset. Job chapitre 5 verset 17. 17. Merci. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend, ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. C'est Job qui nous dit ça. Vous avez déjà lu le livre de Job ? S'il nous dit ça, c'est que, waouh, quel chemin ! Quel chemin ! Frères et sœurs, moi je crois que Dieu est aux portes. Et quand la Bible dit que deux dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Alors je me rappelle d'un frère un jour est venu me voir. Il me dit, pasteur, mais comment c'est cette histoire ? Qui est-ce qui va partir ? Si c'est ma femme, moi je fais quoi tout seul ? Je ne vais pas cuisiner, je ne vais pas faire le ménage. Alors je l'ai rassuré, j'ai dit, tu crois en Jésus ? Oui. Est-ce qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur ? Oui, amen ! J'ai dit, alors t'inquiète pas, si tu marches avec le Seigneur, vous partirez tous les deux. J'ai dit, ça concerne ceux qui n'ont pas fait ce choix, qui n'ont pas voulu régler les choses, qui n'ont pas accepté le fait que Dieu les reprenne sur quelque chose, et finalement ils se sont braqués dans leur position. Et le Seigneur dit, t'es pas prêt ? T'es pas prêt, hein ? T'es pas prêt. Tu peux pas monter sur le train. Tu peux pas partir avec moi. Parce que t'es pas prêt. Voulons-nous prendre ce risque ? Êtes-vous prêt à jouer votre éternité sur ça ? Si Dieu, comme on le dit, et je le crois, il est fidèle, croyez-moi que ce qu'il dit, il le fait. Dans tous les sens, pas que dans le cas de les bénédictions. Dieu, tu as dit que tu donnes ta bénédiction. Je m'attends à ta bénédiction. Mais dis-toi aussi qu'avant la bénédiction, il y a aussi des points qu'il faut régler. On va fermer nos yeux. Et ce matin, sur ces paroles de Job, l'homme qui avait souffert, l'homme qui avait tout perdu, mais l'homme aussi qui avait su garder son cœur attaché à Dieu, l'homme qui a vu aussi la main de Dieu le rétablir, le relever. L'homme qui a su dire, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Nous dit, ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Ne refuse pas que Dieu mette la main là où il touche avec son doigt, là où ça fait mal. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont là parmi nous et qui ont besoin de dire, Seigneur, coupe avec mon passé. Ce passé qui a été tellement compliqué, tellement dur, et par lequel parfois je justifie mes comportements. Je justifie mon présent à cause de mon passé. Mais Seigneur voudrait te libérer de ton passé, pour te donner un avenir et une espérance. Ne te sers plus de tes peines du passé pour justifier tes actes du présent, mais demande au Seigneur, aujourd'hui, au présent, de changer ton présent et ton avenir. Si la culpabilité habite ton cœur, si la haine, si la colère, si le manque de pardon encore aujourd'hui t'empêche d'être libre, de marcher avec le Seigneur, ne reste pas dans cette condition. Tu as la clé de ta prison. Tu as la clé, cette prison, c'est toi qui l'as bâtie. Mais le Seigneur te donne encore ce matin l'occasion de prendre ses clés et ouvrir la porte de ta prison en disant, Seigneur, je veux pardonner, je veux oublier. Et Seigneur, je veux laisser aussi ta grâce me pardonner. La parole de Dieu lui dit que nous serons pardonnés dans la mesure où nous pardonnons aussi. N'oublions pas ces choses. Seigneur, encore ce matin, peut-être il y a des blessures plus profondes, plus personnelles, plus intimes. Seigneur, je ne veux pas les citer. Mais je sais que toi, tu es en train de parler au cœur de chacun. Et je te prie en ce moment même, Seigneur, pour tous ceux et celles qui te disent, Seigneur, viens guérir mon cœur ce matin, Seigneur. Seigneur, viens circoncire mon cœur de tout ce qui ne va pas. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, que ta main puissante vienne couper net, Seigneur. Seigneur, que tu puisses enlever ce qui ne va pas dans nos cœurs, dans nos vies, pour que notre vie te glorifie, pour que notre existence, Seigneur, t'élève, pour que nous puissions passer à l'étape d'après. Oui, comme Josué a pu remporter la victoire, Seigneur, on a des victoires à remporter, Seigneur. Oui, comme Moïse a pu, Seigneur, être cet instrument de délivrance pour le peuple, nous aussi, nous voulons être un instrument de délivrance pour nos familles, Seigneur. Nous voulons être ces témoins efficaces, ces hommes, ces femmes qui s'approchent du Dieu Tout-Puissant et qui communiquent la foi, qui communiquent la joie, qui communiquent la mort, l'amour de Christ, cet amour qui s'est manifesté par sa mort à la croix. Et Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui nous empêche d'être entiers avec toi, alors viens, Seigneur, ce matin, viens ciser nos cœurs pour que, libres de nos chaînes, nous puissions vraiment marcher vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.